Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Sauveur, je suis au milieu d'eux. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Levons-nous pour invoquer le Seigneur avec ton nom. Seigneur est un nom magnifique. Je vous invite à poursuivre notre louange avec la suite. C'est-à-dire que ce premier spontané est aussi la première strophe du psaume 8 que vous trouverez plus complet dans le livre Marron. Donc nous chantons les strophes 2, 3 et 4 de ce psaume 8. Prenez place. Écoutons comment le Seigneur veut être aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Connaître, ô Dieu, ton amour. Nous reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent et de ne pas avoir aidé ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à mieux aimer notre prochain. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance et son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le spontané, page 11. Je vous invite à vous lever. Nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort. Il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée la vie et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers son royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à écouter la lecture de trois textes de la Bible. Tout d'abord, dans le Lévitique, au chapitre 19, les versets 33 à 34, ça a été écrit il y a environ 3000 ans, je trouve que ça n'a pas tellement changé. Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Puis, dans la Nouvelle Alliance, lecture que je vais commenter dans la méditation d'aujourd'hui. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 23, jusqu'au chapitre 20, verset 18. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. » C'est dans un psaume. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation du sabbat et de Pâques, les autorités juives, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis du second, de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ne lui brisèrent pas les jambes. Un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture, pas un de ses os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça. Et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Dans ce jardin, un tombeau, tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la fête juive, de la préparation, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche donc, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui signifie maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Je suppose que ce texte, vous allez l'entendre encore dans les semaines qui viennent. On ne s'en lasse pas. Troisième lecture, qui est une des lectures de ce jour. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole, aide-nous à la comprendre, tant de siècles après, et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 208, dont vous verrez que c'est un cantique de Martin Luther, puisque nous sommes toujours dans l'année Luther. Nous prions. Oui, Seigneur, dans l'adversité, dans la détresse, tu es présent pour nous aider, nous donner le pain, le vin, la grâce, pour nous faire entrevoir ton royaume et nous aider à l'accomplir ici, sur la terre que tu nous as donnée. J'ai vu un ressuscité. Si, si, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas une crise mystique. J'ai vu un ressuscité dans un film. Non pas un acteur qui joue le rôle d'un ressuscité, bien sûr, ça c'est banal, mais d'un comédien qui s'appelle Peter Cushing, qui jouait dans le premier épisode tourné de La Guerre des Étoiles en 1977. Et l'an dernier, donc 22 ans après sa mort, on l'a vu dans un film qui s'appelle Rogue One, qui est un épisode un peu en marge de la série La Guerre des Étoiles. D'autres personnages de la saga sont revenus dans ces premiers, dans cet épisode, ça s'appelle un spin-off. Mais c'était des robots, c'était Darth Vader, et pas besoin de n'importe qui peut se mettre dans l'armure. Cushing, alors d'habitude on prend un acteur qui ressemble, et là non. On a reconstitué numériquement le visage de Peter Cushing avec les expressions faciales, et on a mis le tout, par ordinateur, sur le corps d'une doublure. Donc, Peter Cushing a joué dans un film 22 ans après sa mort. Comme c'est un comédien qui a joué 6 fois le baron Frankenstein, on peut dire qu'il était prédestiné. Pourquoi je vous parle de ça ? Ben pour vous dire que résurrection, ça peut recouvrir bien des réalités. Nous approchons de Pâques, je vais vous parler de la résurrection, qui est quand même la grande fête chrétienne, même si médiatiquement Noël l'a quelque peu dépassée. Je vous propose d'étudier cet événement extraordinaire, d'abord en regardant qui étaient les premiers témoins du tombeau vide et témoins des premières apparitions de Jésus ressuscité, et après nous verrons ce que nous pouvons, peut-être, quelles réflexions nous pouvons en tirer. Sur les premiers témoins, nous avons, comme d'habitude, évidemment, 4 versions plus ou moins concordantes de l'événement, crucifixion et résurrection. Je vous ai lu la version du 4e évangile attribuée à l'apôtre Jean, qui est la plus détaillée. Je résume en quelques mots ces versions. Selon Matthieu, assiste au supplice près de la croix Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marie-Madeleine et l'autre Marie, donc la mère de Jacques et Joseph, on va y revenir, le 3e jour se rendent au tombeau qu'elles trouvent vide. Un ange, puis Jésus, leur apparaissent et les envoient porter la nouvelle. Chez Marc, assiste au supplice Marie-Madeleine, elle est là les 4 fois. Marie, mère de Jacques le mineur et de José, donc c'est la même autre Marie, et Salomé, et plusieurs autres femmes. Les 3 femmes nommées, donc Marie-Madeleine, l'autre Marie et Salomé, se rendent ensemble au tombeau le dimanche. Le tombeau est vide, la pierre roulée. Un ange leur apparaît, elles s'enfuient épouvantées, sans rien dire à personne. Normalement, ça s'arrêtait là. C'est ainsi dans les plus anciens manuscrits que nous ayons, mais on a rajouté quelques versets dans lesquels Jésus apparaît à Marie-Madeleine, qui va porter la nouvelle aux disciples. Ses disciples ne la croient pas, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse finalement. Dans l'évangile selon Luc, assiste de loin, il précise, au supplice, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, c'est la même, et quelques anonymes. Elles viennent toutes au tombeau, 2 anges leur apparaissent, elles courent porter la nouvelle aux disciples qui ne voient là que niaiserie de femme. Seul Pierre va quand même au tombeau pour vérifier s'il est bien vide et, nous dit le texte, Pierre est dans l'étonnement. Texte de Jean, je vous l'ai lu, sont présents au pied de la croix Marie, mère de Jésus, sa sœur, Marie, femme de Clopas, Marie-Madeleine, bien sûr, et cet anonyme disciple bien-aimé qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'est le seul homme cité, quoique homme, si, je pense que c'est un homme, mais disciple, ça pourrait désigner une femme. Marie-Madeleine se rend seule au tombeau, voit que la pierre a été roulée. Elle va avertir Pierre et le disciple bien-aimé, qui accourt, voit, et il croit, dit le texte, et s'en va. Après leur départ, Jésus apparaît à Marie-Madeleine seule, d'où le dialogue que je vous ai lu. Quelques mots sur ces personnages, tous féminins, sauf par les 10 autres apôtres survivants, puisqu'évidemment, Judas n'est plus là, ces 10 autres apôtres se cachent de peur des persécutions. La sœur de Marie, mère de Jésus. La Vierge Marie avait une sœur, Jésus avait une tante, pourquoi pas. J'avoue que je n'ai pas trop cherché dans les textes ou dans les apocryphes des informations sur elle. La mère des fils de Zébédée. Cette expression étrange désigne donc la mère de 2 des apôtres, Jean, qui est l'auteur supposé du 4e évangile, de 3 épîtres et de l'Apocalypse, ce qui n'est quand même pas rien, et de Jacques, que l'on appelle le majeur, pour le distinguer d'un autre apôtre, Jacques le mineur, dont nous allons parler, qui est le fils de l'autre Marie. J'espère que vous suivez, parce qu'ils ont tous les mêmes prénoms, il y a 2, c'est un peu compliqué. Donc, en bonne mère juive, elle a suivi ses fils derrière Jésus depuis la Galilée. Marie, la femme de Clopas. On ne sait rien de ce couple, à moins que Clopas soit aussi Clophas, qui est un des deux voyageurs sur le chemin d'Emmaüs, à qui Jésus va apparaître peu après, le seul qui est nommé sur les deux voyageurs. Alors si c'est Clopas, était-il bien accompagné de sa femme sur la route d'Emmaüs? Ce serait elle, l'autre voyageur, peut-être. Il y a une nommée Jeanne, on l'est citée ailleurs dans les évangiles, c'est l'épouse de Chouza, qui est un intendant de la maison du roi Hérode, enfin du tétrarque Hérode. Salomé, celle-là est bien connue quand même. C'est la belle-fille d'Hérode Antipas, qui a, disent les évangiles, aurait dansé lascivement, qui a inventé le striptease en quelque sorte, devant son beau-père pour obtenir la tête de Jean le Baptiste. Repentante, elle a rejoint Jésus. Vous remarquerez que ces femmes courageuses représentent tous les échelons de la société. Il reste trois Maries à voir. Alors Marie de Magdala, pas de souci. Il y a deux Maries encore à envisager, la mère de Jésus et la mère de Jacques, à moins qu'il s'agisse de la même. Je vous résume une théorie qui a été avancée par des archéologues sérieux. Marie, la mère de Jésus, après la mort de Joseph le Charpentier, s'est remariée, selon la tradition, avec le frère du défunt, tradition juive à l'époque. Pourquoi ? Et ce frère pouvait s'appeler Alphée. Et c'est donc avec Alphée que la Vierge Marie aurait eu les frères et sœurs de Jésus cités dans les évangiles. Et justement, parmi les frères de Jésus, cités dans les évangiles, il y a les prénoms, il y a Jacques et Joseph, qui sont les prénoms de deux des apôtres, même trois, puis il y a l'autre Jacques le Majeur. Est-ce que Jacques, fils d'Alphée, fils de Marie, serait devenu un des... Enfin, c'est l'un des apôtres, mais ce serait aussi le demi-frère de Jésus. Donc, Jacques, le mineur, fils d'Alphée, apôtre, est aussi Jacques, le frère du Seigneur, dont parle Luc dans le livre des Actes et que Paul mentionne dans plusieurs épîtres. Et donc ce serait aussi le disciple bien-aimé, celui qui est au pied de la croix avec sa mère, Marie. Vous avez noté que Marie, mère de Jésus, n'est citée que dans le quatrième évangile, qui ne cite pas la mère de Jacques, et que la mère de Jacques est citée dans les trois premiers qui ne citent pas la mère de Jésus. Donc ça pourrait être la même. Et ce serait le disciple bien-aimé. Quoi de plus logique, d'ailleurs, que Jésus, mourant sur la croix, j'ai lu la phrase qui a été quand même assez commentée, « Mère, voici ton fils, et toi, voici ta mère. » Ben oui, si c'est l'aîné de ses petits frères, il devient le fils aîné, et donc il lui confie sa mère. Cette petite enquête policière, qui était là, qui a vu quoi, peut paraître déplacée, mais je crois que ça ne l'est pas entièrement. Dans une réflexion sur la résurrection, je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors la résurrection, on est toujours gêné face au miracle de la Bible, même si l'on est croyant, je dirais, surtout si l'on est croyant. Si Dieu a créé le monde et les lois naturelles, pourquoi viole-t-il les lois naturelles qu'il a créées? Alors il y a eu les guérisons miraculeuses, pourquoi pas? Jésus peut avoir été un thaumaturge, un guérisseur. La postérité a un peu embelli ses guérisons. De là à ressusciter soi-même. On a proposé des explications rationnelles. Dès les évangiles, les grands prêtres, entre guillemets, craignent que les disciples viennent voler la dépouille pour faire croire que Jésus est ressuscité. C'est peu vraisemblable parce que, d'abord, les disciples se cachent tous, comme je vous l'ai dit, et parce qu'en plus, selon les évangiles, il y a des gardes autour du tombeau. Je vous cite aussi une explication rocambolesque qui a la faveur de certains milieux musulmans et maçonniques. On a crucifié quelqu'un d'autre à la place de Jésus. On a proposé Judas, Barabbas, Thomas, parce que Thomas, son autre nom, Didyme, signifie jumeau. Les soldats romains se seraient-ils laissés avoir? Et en plus, le tombeau ne serait pas vide. Ces explications rationnelles ne me satisfont pas. D'ailleurs, elles sont en général sans grand intérêt. Ce qui compte, c'est le sens du récit. Ici, c'est la victoire sur la mort, c'est le fait que le message de Jésus vit toujours. Pourquoi chercher parmi les morts ce qui est parmi les vivants? Que s'est-il passé dans le tombeau la nuit du samedi au dimanche? Ben j'en sais rien, et donc je ne pourrais pas vous le dire. Il s'est pourtant passé quelque chose. Parce que le vendredi soir, Jésus crucifié c'est l'échec total, la fin de l'aventure. Le maître est mort, les disciples sont dispersés. Mais le dimanche matin, de la rencontre entre Jésus, sorti du tombeau, semble-t-il, et Marie de Magdala, est né un mouvement qui a bouleversé l'histoire du monde, qui fait que nous sommes réunis ici, 2000 ans plus tard. Cette histoire est donc, entre guillemets, vraie en raison de ses conséquences, même si elle n'est pas historiquement exacte. Imaginons d'autres développements après la résurrection. Mettons-nous modestement à la place de Jésus, ressuscité. Il aurait pu se précipiter au temple de Jérusalem, face à Caïphe, face à Pilate, proclamer la puissance de Dieu qui l'a fait revenir du monde des morts. Vous allez vous me tuer, me voilà. Quel triomphe! Ce serait dans tous les livres d'histoire. Magnifique. L'humanité entière convertie en un instant. Parce que si c'est un fait historique, il n'est plus question de croire ou de ne pas croire, on est converti. Et où serait la liberté, justement, du croyant? Liberté de croire ou de ne pas croire. Nous sommes des protestants libéraux, nous sommes attachés à cette liberté et à d'autres d'ailleurs. Jésus ressuscité ne porte pas atteinte à notre liberté. Il révèle discrètement à son entourage proche qu'il est revenu, sa mère, son frère, des amis, Pierre, Marie-Madeleine. Certains n'ont même que la vision du tombeau vide dans un premier temps. Nous sommes libres de croire ou pas à ce qu'il nous raconte. Et Jésus est apparu d'abord à des femmes, lesquelles, en raison du statut social qui est le leur à l'époque, ne sont même pas crues par les hommes, ces hommes qui, eux, se cachaient. Je vous rappelle que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Je vois là un parallèle avec ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, l'incarnation dans l'humilité. Jésus naît dans un milieu modeste, un trou perdu de l'Empire romain, et ressuscite discrètement. Auprès de femmes, de son entourage. Ce rôle primordial des femmes dans la révélation a été sérieusement occulté par l'Église. Alors dans les Bibles catholiques, dans les chapitres et les intertitres, elles sont appelées les saintes femmes, pour compenser sans doute. On les appelle saintes, elles ne veulent pas en plus en tirer toute la gloire. Ceci est un aparté féministe. Jésus ne s'impose pas comme ressuscité. Prenait-il même une autre forme humaine ? La question s'est posée, peut se poser. Paul, lorsqu'il relate sa propre conversion, dit que Jésus lui est apparu comme aux autres, les autres dont il adressait la liste. Il n'a jamais dit que c'était en chair et en os. Vous avez noté que Marie-Madeleine ne reconnaît tout d'abord pas Jésus. Elle le prend pour le jardinier qui aurait emporté la dépouille. De même, les deux pèlerins d'Emmaüs ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Il faudra qu'ils rompent le pain à l'auberge. Les 7 disciples en train de pêcher au bord de la mer de Tibériade, chapitre 21 de l'Évangile selon Jean, ne le reconnaissent pas non plus lorsqu'il passe. Il faudra une pêche miraculeuse pour leur ouvrir les yeux et pour que Jacques, son frère, le disciple bien-aimé, si c'est bien lui, reconnaisse Jésus. Il faut faire un acte positif envers Jésus, le reconnaître. Cela ne s'impose pas de prime abord. Thomas sera le seul privilégié, je ne sais pas privilégié, à qui Jésus apparaîtra tel qu'il était de son vivant, mais avec ses plaies en plus, pour que celui-ci croie après avoir vu. Je voudrais revenir à Marie-Madeleine, qui a eu, selon Jean ou Jacques, donc, ce premier échange verbal détaillé avec le ressuscité que je vous ai lu. Enfin, détaillé, il y a un échange de 3 phrases. Elle ne le reconnaît pas. Puis il l'appelle par son nom, Marie. Elle se retourna et lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Ce rôle essentiel et privilégié de Marie-Madeleine pourrait conforter certains ragots sur ses rapports avec Jésus, ragots qui courent encore aujourd'hui. Je me demandais pourquoi, dans un article que j'avais écrit dans le journal L'Amitié, la tradition avait transformé Marie de Magdala en pécheresse, prostituée. Il n'y a rien dans la Bible dans ce sens. Sans doute l'Église, dans sa peur de la sexualité et sa misogynie féroce, a voulu dissiper ses ragots. Il est impossible que Jésus soit en couple avec Marie-Madeleine, puisque c'est une prostituée. Pour tenter de conclure, c'est quand Jésus appelle Marie de Magdala par son nom, à ce moment précis, un dimanche d'avril de l'an 30, devant le tombeau de Joseph d'Arimathie, alors qu'elle reconnaît le maître, C'est un peu là que naît le christianisme. C'est la première manifestation de foi en la résurrection. Manifestation libre et non provoquée d'autorité. Jésus a appelé Marie par son nom. Il a partagé le pain à Emmaüs. Il a nourri les pêcheurs malchanceux de Tibériade. Il a appelé Paul par son nom, Saül, Saül qui le persécutait. Et là seulement, ils l'ont reconnu. Marie-Madeleine serait en quelque sorte la première chrétienne. Le mot n'existe pas encore au moment où nous nous situons. C'est une femme obscure, insultée, diffamée par la tradition. Nous avons la grâce, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est bien. Mais il faut faire un petit geste. Non pas respecter la loi et les œuvres, je vous rassure, mais une démarche simple. Reconnaître derrière le jardinier du cimetière, derrière le randonneur d'Emmaüs, derrière le passant qui demande si la pêche est bonne, reconnaître la présence de Jésus qui nous appelle. Nous aussi, il nous appelle par nos noms. Nous ne l'avons pas entendu, mais c'est parce qu'il nous a appelés ici, ce dimanche, que nous sommes là, réunis, autour de la parole. Reconnaissons-le. Rabboni. Amen. Permettez-moi de vous dire que prêcher devant 4 ou 5 pasteurs, dont celui qui m'a confirmé ici en mai 68, c'est une expérience. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Quelques annonces. À la sortie, vous aurez un rafraîchissement. Nous remercions Frédéric qui nous a accompagnés. Enfin, je sors la plaisanterie à chaque fois. Il nous a accompagnés tout au long de ce culte. Il n'a pas fini parce que lui, il en est à peu près à la moitié. D'autres annonces, monsieur le pasteur.
S'il y a quelques pasteurs dans l'assemblée, je ne crois pas qu'il y ait de jardinier. Merci Didier pour la prédication et le fait de savoir que Jésus est présent dans la discrétion. Et j'ai remarqué aussi tes références cinématographiques. Et j'en profite pour dire que dimanche prochain, le culte sera présidé par Vincent Fabre, hein, c'est ça ? Et que Vincent, Didier et moi-même, on a la ferme intention de créer un ciné-club dans la paroisse. Je vous le dis à l'avance pour que vous puissiez l'intérioriser, que lorsqu'on mettra la soirée au point, vous puissiez vous dire, bah oui, c'est vrai, voilà. Alors, mardi prochain, 28, il y a l'étude biblique à midi sur le livre de Job. Aussi, l'étude biblique est aussi intéressante que le repas. Je sais pas combien il y a de repas dans le Nouveau Testament, mais il y en a un paquet. Vraiment, mon prof de Nouveau Testament, là, Maurice Carrez, nous avait dit le nombre de repas qu'il y a dans le Nouveau Testament, mais c'est impressionnant. Je veux dire, ils sont tout le temps en train de manger, de faire la fête. Et donc, c'est quand même assez génial. Il y a quand même des images du royaume qui sont très positives. Hein. Bon, allez, donc dimanche prochain, c'est Vincent Fabre qui préside le culte. Je vous donne la semaine d'après, juste comme ça, le vendredi 7 à 19h30, on a le groupe Psychanalyse et Foi. Vous savez qu'on fait les fables de La Fontaine et les textes bibliques, pour voir un petit peu ce qu'il y a de commun derrière tout cela, qui procède un petit peu de la psychologie des uns et des autres. La fable de La Fontaine, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, même si ça vous semble une plaisanterie, c'est pas qu'une plaisanterie, mais c'est assez intéressant de voir les rapports qu'il peut y avoir entre les textes profanes et les textes de la Bible. Alors le dimanche 9, normalement ça devait être Céline qui devait présider le culte, mais il y a un petit bouleversement, c'est Béatrice Cléromazir qui présidera le culte. Elle avait été prévue pour une date ultérieure, mais elle ne peut pas venir. Je ne saurais trop vous conseiller de venir l'écouter. Voilà, pour des tas de raisons. D'abord pour sa valeur elle-même, et puis c'est une pasteur qui est libérale aussi, et donc je pense que c'est intéressant que vous puissiez la rencontrer à ce moment-là. Voilà, donc c'est dimanche 9 avril. Je crois que c'est pendant les vacances, hein, c'est ça, hein ? Bon, si vous êtes sous d'autres cieux, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire que... Non ? Tout va bien ? Ben c'est impeccable. Alors, j'annonce l'offrande. Eh bien, je ne sais pas si dans des gestes aussi simples que l'offrande, vous discernez la présence du Christ et du ressuscité, mais je pense que l'offrande étant un partage, une participation à la vie de l'Église, il doit y avoir quelque chose de cette présence aussi discrète qu'efficace de Jésus-Christ dans notre geste. Donc je vous invite à participer à notre offrande et on chante pendant ce temps-là.
Nous chanterons pendant l'offrande le cantique 272. Ô mon Père, ma prière, je vous invite à vous lever.
C'est bon.
Prenez place. Oui. Nous avons la chorale de l'église presbytérienne du Cameroun qui s'est jointe à nous et qui va nous chanter un cantique, je suppose. quelque chose devant le micro, qu'on t'entende.
Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, nous nous excusons. Peut-être le temps a fait en sorte que les gens ne se réveillent pas à temps. Mais nous faisons déjà ce nombre qu'il faut, ce qui était sur la croix aussi. Bon, dans le cantique que nous allons chanter, c'est le 323 en langue bassa, et qui est très bien connu de nous tous. C'est à toi la gloire.
Rencontrer des communautés qui chantent des cantiques dont on n'a pas toujours connaissance. Ce chant n'est pas dans nos cœurs de chante, il est dans Alléluia. Et s'il vous a vraiment plu, je peux vous le photocopier en nombre d'exemplaires suffisant et le coller dans nos cœurs de chante. C'est à Dieu soit la gloire. Hein? C'est le titre exact. Voilà. Vous n'avez qu'à me dire à la sortie, si vous voulez, c'est trois fois rien à faire. Voilà. Merci, dans tous les cas.
Nous prions. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades, présents ou absents. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous seront chers. Je vous invite à entendre la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la grâce, de la victoire sur la mort et du salut. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Béni au Dieu nôtre. Dimanche et à tout de suite.